France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Au départ de cette enquête, il y a un personnage nommé Aoutourou, évoqué par Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville, largement effacé dans la mémoire européenne. Aoutourou a embarqué sur le navire de l'explorateur français après son escale à Tahiti. L'homme dont nous ignorons les raisons qui l'ont poussé à entreprendre un tel voyage est donc à l'origine de cette enquête historique que nous propose notre invité ce soir, Antoine Lilti, dans son dernier ouvrage intitulé « L'illusion d'un monde commun, Tahiti et la découverte de l'Europe », avec un objectif en ligne de mire, déplacer le regard sur ces vies polynésiennes racontées à l'époque du point de vue européen. Alors comment écrire l'histoire des autres? Comment raconter ces vies? Comment les décrire? Bonsoir Antoine Lilti.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur au Collège de France, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et je redonne le nom de cet ouvrage qui vient de paraître, L'illusion d'un monde commun, Tahiti et la découverte de l'Europe. C'est aux éditions Flammarion. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Il n'y a aucun Polynésien, du moins suffisamment brave, qui résiste à l'envie, si on lui donne l'occasion, d'aller vers des terres inconnues. Les terres inconnues, ce n'est pas la mort, c'est au contraire de nouvelles promesses de vie. L'idée qu'il y a toujours un ailleurs meilleur à l'horizon est dans tous les mythes polynésiens.
La voix de l'ethnologue, chercheur, écrivain Serge Tchekhezov, il s'exprimait dans le cadre d'un documentaire intitulé « Bougainville, le voyage à Tahiti », disponible sur Arte. Antoine Lilti, lorsqu'on entend ce monsieur évoquer les mythes polynésiens, la sensation qu'il y a toujours mieux ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui animait Diderot lorsqu'il écrit son supplément.
Oui, absolument. Diderot est fasciné par le récit que Bougainville a donné de son voyage autour du monde, et notamment de l'escale à Tahiti, qui va être un choc pour la conscience européenne au XVIIIe siècle, avec l'idée d'une rencontre, d'une découverte, puisqu'on parlait comme ça à l'époque, d'une société totalement différente et d'une société qui peut servir de contre-modèle à ce qui est déjà perçu comme les excès ou les défauts de la civilisation européenne. Et ça va nourrir ensuite une grande tradition qui va être celle de la fascination pour l'exotisme tahitien.
Et oriental aussi, parfois, évidemment. Antoine Lilti, il faut nous raconter, j'allais dire, un personnage, mais c'est plus qu'un personnage, c'est une vie, celle d'Aoutourou, que je mentionnais en introduction, car il est le point de départ de votre démarche et du livre que vous venez de faire paraître.
Oui, Aoutourou est un personnage que Diderot évoque, justement, dans le supplément au voyage de Bougainville. C'est un passage qui m'a toujours fasciné. J'ouvre le livre par cet extrait, parce que, effectivement, Diderot le cite, mais n'en fait rien, l'écarte très rapidement. Et je voulais savoir qui était ce Aoutourou, pourquoi est-ce qu'il s'était embarqué. Parce qu'il fait plus que s'embarquer, il va venir à Paris, il va passer un an à Paris avant de repartir. Et donc, je me suis intéressé d'abord à son statut. Est-ce qu'il avait été kidnappé, emmené de force en Europe? Est-ce que c'est lui qui voulait voyager? Pourquoi est-ce qu'il voulait voyager? Et puis ensuite, les liens à la fois d'amitié, de conversation qu'il a noué avec Bougainville, puis la curiosité que lui-même à la fois a suscité et ressenti lors de son séjour à Paris.
Je voudrais revenir un instant sur la façon dont Diderot aborde lui-même cette vie, cette personne à Aoutourou. Il en fait pratiquement un enfant mélancolique, un enfant incapable de choisir pour lui-même ce que sa vie devrait être, un enfant incapable de prendre sa vie en main. Vous, c'est l'opposé, la démarche inverse que vous opérez.
Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que Diderot, lorsqu'il fait ça, c'est parce qu'il considère en quelque sorte que Aoutourou est une victime. Et il y a une dimension, hein, dans le supplément Voyage de Bougainville, il y a une dimension anticolonialiste très forte, c'est la grande originalité du texte de Diderot, hein, dans la culture du XVIIIe siècle. Lui a conscience d'une violence qui a été effectuée à l'égard d'Aoutourou, mais à force de le voir comme une victime, il lui dénie toute capacité à comprendre sa vie, à comprendre ce qui lui est arrivé. Il dit que c'est quelqu'un qui a été déplacé et qui n'avait pas dans sa langue et dans sa culture les moyens de comprendre ce qui lui est arrivé. Et ça m'a toujours interpellé chez un penseur aussi audacieux que Diderot, cette incapacité à prendre en compte la possibilité que les Polynésiens aient eu leur propre interprétation de ce qui leur arrivait et leur propre capacité surtout à agir.
Alors écoutons un extrait du supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot, une lecture donnée par Juliette Moellic.
Aotourou. À la première terre qu'il aperçut, il la prit pour la patrie du voyageur, soit qu'on lui en eût imposé sur la longueur du voyage, soit que trompé par le peu de distance apparente des bords de la mer qu'il habitait, à l'endroit où le ciel semble confiné avec l'horizon, il ignora la véritable étendue de la terre. L'usage commun des femmes était si bien établi dans son esprit qu'il se jeta sur la première européenne qui vint à sa rencontre et qu'il se disposait très sérieusement à lui faire la politesse d'Otaïti. Il s'ennuyait parmi nous. L'alphabet otaïtien, n'ayant ni B, ni C, ni D, ni F, ni G, ni Q, ni W, ni Y, ni Z, il ne put jamais apprendre à parler notre langue, qui offrait à ses organes inflexibles trop d'articulations étrangères et de son nouveau. Il ne cessait de soupirer après son pays, et j'en ne suis pas étonnée.
Il est troublant, Antoine Lilti, ce portrait en creux et bien rapide d'Aotourou. Il est à la fois dédaigneux et on sent le miroir inversé de ce qu'est un Européen dans la conscience qu'il a de lui-même.
Absolument, parce que justement, ce qui fait la fierté des Européens à ce moment-là, et notamment donc des Européens des Lumières, c'est l'idée d'être des voyageurs, d'être des gens qui partent sans nostalgie, sans mélancolie, et d'être capables qui partent à l'aventure pour découvrir de nouveaux mondes. Et Aotourou, alors que lui-même, justement, s'est embarqué de son plein gré, ça c'est ce que j'ai pu montrer dans le livre, eh bien là, il est ramené effectivement à cette condition de quelqu'un qui est déplacé, donc contre son gré, et surtout qui est incapable de comprendre le français, incapable de communiquer. Et finalement, la seule communication que Diderot lui reconnaît, c'est pour en faire un personnage de farce, de quelqu'un d'une farce un peu graveleuse, lorsqu'il se jette, on en vient d'entendre l'exemple, pour faire sur les femmes qu'il rencontre la politesse de Tahiti. Donc là, Diderot réactive et joue sur quelque chose qui a été très important parce que ça tournait dans les récits de Bougainville, qui était l'idée d'une liberté sexuelle à Tahiti. Mais au lieu de le traiter comme il va le traiter dans le reste du supplément, c'est-à-dire sur un mode politique, comme une utopie politique, eh bien là, il le traite sur le mode de la farce pour créer une sorte de complicité civilisée avec son lecteur sur le dos d'Aotourou.
Alors, on va en venir, Antoine Lilti, aux grandes conclusions que vous dessinez quant à la rencontre de ces deux mondes, le monde polynésien, le monde européen. Mais avant cela, comment avez-vous travaillé en tant qu'historien avec ces fragments de vie, avec ces morceaux d'existence extrêmement disparates, faits de béances évidentes? On sait extrêmement peu de choses d'Aotourou et des autres qui peuplent le livre que vous venez de faire paraître aux éditions Flammarion.
Alors, on sait peu de choses et surtout la grande difficulté qui se posait à moi, c'est qu'on n'a que des sources européennes. Donc voilà, ça c'est une chose qu'il faut dire, puisque le thème de l'émission est comment écrire l'histoire des autres. Aujourd'hui, on ne peut plus écrire cette histoire de la rencontre, puisqu'au fond, c'est un livre sur la rencontre interculturelle et donc sur la confrontation de deux altérités. On ne peut plus écrire cette histoire comme on l'a longtemps écrit, du point de vue héroïque des Européens qui découvrent la Polynésie, la découverte du Pacifique, l'exploration du monde. On ne peut plus écrire l'histoire comme ça. Mais l'écrire du point de vue, ou en tout cas en suivant les trajectoires de vie des Polynésiens, se heurte à une difficulté, c'est que ce sont des sociétés sans écriture au XVIIIe siècle. Il existe une tradition orale, mais pour plein de raisons, ce que je ne vais pas m'apesantir là, elle est en grande partie biaisée par les conditions dans lesquelles elle a été recueillie au XIXe siècle. Et donc, il faut se contenter des sources européennes. Et donc, il faut les lire en quelque sorte, parfois contre elles-mêmes. Et surtout, la stratégie que j'ai adoptée, c'est d'être toujours attentif à tous les moments où, en fait, les sources se contredisent. Et tous les moments où différentes sources disent des choses différentes, c'est le moment où l'historien ou l'historienne peut travailler pour essayer de comprendre ce qu'étaient ces vies. Et au fond, quand on regarde de près, quand on multiplie les documents, à la fois les récits de voyage, les textes littéraires, les pièces de théâtre, etc., les correspondances, les journaux, on finit quand même par recomposer un puzzle assez complet.
Il faut aussi préciser par ailleurs que vous n'avez laissé aucune place dans ce travail à l'imagination, à la fiction. Vous avez fait de l'histoire, uniquement de l'histoire, Anton Lilti. Alors commençons peut-être par le premier mythe qui entoure cette grande rencontre culturelle. L'arrivée des Européens aurait été un événement absolument gigantesque, phénoménal pour les Tahitiens eux-mêmes. Est-ce que c'est vrai ?
Ben, je pense que ça a été un événement phénoménal pour les Européens, ça c'est certain.
Beaucoup plus que pour les Tahitiens.
Alors pour les Tahitiens, c'est difficile à dire, mais il est vraisemblable que je suis pas le premier à dire ça, c'est-à-dire que beaucoup d'historiens qui travaillent sur ces moments de rencontre, de premier contact, hein, comme on dit aujourd'hui, se rendent compte que souvent ça ne fait pas époque dans la conscience et dans les récits des Tahitiens. Alors à très long terme, c'est sûr que ça a eu un impact absolument considérable, ne serait-ce que démographique. Les sociétés tahitiennes, il faut le rappeler, polynésiennes, vont subir une catastrophe démographique. Mais à court terme, finalement, ce qui est très frappant, c'est la façon dont ces voyageurs européens sont très rapidement intégrés à la vie culturelle polynésienne.
L'autre grand mythe peut-être qu'il faut déconstruire rapidement, c'est l'opposition entre un espace européen baigné dans la rationalité absolue, l'envie de découvrir le monde, de le conquérir pour imposer partout et tout le temps cette rationalité, et de l'autre, une société polynésienne, tahitienne, faite de mythes, et elle qui baigne quant à elle dans une irrationalité confondante cette fois.
Oui, alors là, je dois dire que je me suis assez amusé à essayer d'inverser totalement le point de vue, puisque d'abord, ces Européens rationnels, scientifiques, des Lumières qui arrivent avec leurs appareils de mesure, eh bien, en réalité, ils sont totalement nourris de mythes, et notamment de mythes antiques. D'ailleurs, Bougainville arrive et commence par appeler Tahiti la nouvelle Citerre. Il va projeter sur tout ce qu'il voit, au fond, des cadres qui sont des cadres mythologiques. Et si vous relisez le voyage autour du monde, vous apercevez qu'il passe son temps à évoquer la mythologie antique. Et donc, sont vraiment, de ce point de vue-là, il y a une pensée mythique qui est très puissante, et puis ils vont fabriquer, à partir de Tahiti, des mythes et des utopies, ou en tout cas ce que Diderot, justement, appelle la fable de Tahiti. Et puis, de l'autre côté, on voit des Tahitiens qui, par exemple, sont tout à fait capables de commercer, d'agir et d'échanger et de coordonner leurs actions de manière tout à fait efficace et parfois même utilitariste avec les Européens.
Ces Européens vont par ailleurs, Antoine Lilti, dessiner les prémices d'un autre mythe, le mythe d'un Tahiti absolument paradisiaque, fait, j'allais dire, pratiquement un paradis sur Terre, hein, dans le fond d'une beauté extraordinaire, fait de gens heureux, peuplé depuis l'éternité par des êtres capables de se nourrir d'eau fraîche et d'amour.
Oui, alors là, il faut bien voir qu'ils ont, surtout les premiers voyages, n'ont pas compris grand-chose. À partir du deuxième, troisième voyage de Cook, ce sera différent, mais notamment Bougainville, au fond, il reste que 10 jours, hein, il reste pas très longtemps.
Et pourtant, c'est cela que l'on retient de ce voyage.
Et c'est ça qu'on retient, parce qu'il va le raconter. Il va publier donc son récit, et puis d'autres de ses officiers vont raconter le voyage, et ça va profondément marquer la conscience européenne jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que j'essaye d'analyser ça à la fin du livre. Il y a une longue durée de la façon dont le mythe du paradis tahitien, de la liberté érotique tahitienne, de la beauté tahitienne, d'un paradis hors du monde et hors du temps, a recouvert d'une part ce qui était la réalité de la société polynésienne, qui était une société guerrière, une société hiérarchisée, et puis ça a recouvert ce qui a été la violence en réalité, et notamment la première scène, je la raconte dans le livre, en réalité est une scène de bataille, est une scène de canonnade à l'arrivée de l'anglais Samuel Wallis, quelques mois avant l'arrivée de Bougainville.
On était obligé de passer par là un extrait des Révoltés du Bounty, un film sorti en 1962.
Ça doit être une sorte de jeu, pour dame seule.
C'est pas rigolo comme jeu.
Je suis pas de ton avis.
Il n'y a pas un homme avec elle, dis donc.
Et à combien de femmes, à votre avis, les gars ?
Assez pour nous.
Dis donc, tu crois qu'il faudra aller le dire aux autres ?
Tu rigoles ?
Un film signé Lewis Milestone, et ce que l'on entend là, Antoine Lilti, c'est l'érotisation de ces Tahitiennes. Un autre mythe, là aussi absolument fondateur, dans la relation qu'entretiennent les Européens avec les Polynésiens.
Oui, absolument. Alors, vous avez cité, on a entendu tout à l'heure, au début de l'émission, un extrait de l'anthropologue Serge Tcherkessov. Alors, il faut lui rendre hommage, parce qu'il a été le premier à retourner complètement ce mythe. Donc, je m'appuie, et en même temps, je discute un peu son travail. en montrant qu'au fond, il y avait un grand malentendu, c'est-à-dire que les Européens n'ont pas véritablement compris les motifs pour lesquels des femmes leur étaient offertes, mais souvent leur étaient offertes sous la contrainte. Et ils se sont mépris, mais ce qui est incroyable...
Ça aurait changé quelque chose, honnêtement, sur, j'allais dire, sur leur érotisation même.
Pas forcément, mais ça aurait changé. Ce qui est très étonnant, c'est la façon dont durablement cette érotisation a été prise pour une liberté et une volonté érotique des Tahitiennes. C'est ça qui est tout à fait étonnant, et sur une très très longue durée. Et ça va être relayé au 19e siècle par Pierre Loti, par Gauguin, par toute une série culturelle, et jusqu'à aujourd'hui avec l'industrie touristique ou cinématographique. Alors, c'est pas l'érotisation, mais sur le film du Bounty de 62, il y a une anecdote tout à fait passionnante, c'est que ils ont été obligés, pour que les plages ressemblent à des plages paradisiaques, de déverser des tonnes et des tonnes de sable blanc, puisque le sable à Tahiti est un sable noir. Il n'y a pas de plage de sable blanc à Tahiti. Et donc, l'imaginaire est tellement puissant qu'il recouvre complètement la réalité de ce qu'est la Polynésie.
Quelle relation se noue dans cet instant-là, dans ce voyage, entre les Tahitiens d'un côté, les Européens de l'autre? Est-ce que ce sont des relations strictement commerciales, ou bien il y a un peu plus? Il y a, comme, j'allais dire, comme dans les révoltés du Bounty, des moments d'amour, d'échanges sincères et des moments humains?
Oui, il y a des moments humains, il y a des moments presque d'amitié qui semblent se nouer. Il y a des moments aussi de collaboration intellectuelle. Et là, il y a un cas, c'est pas Autourou, mais il y a un autre personnage sur lequel je m'appuie dans le livre, qui s'appelle Tupaya, qui était un savant, vraiment un grand personnage tahitien, qui était le détenteur de toutes les traditions de navigation et astronomique à Tahiti, et qui va accompagner James Cook jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et là, il y a une forme de collaboration scientifique. Ils vont ensemble mettre au point, travailler à une cartographie de la Polynésie. Donc oui, il y a effectivement aussi des moments d'échange.
On y vient justement alors à ces Tahitiens qui embarquent ensuite sur des navires européens. Pourquoi le font-ils au premier abord? Si on veut vraiment rompre, j'allais dire, le mythe là encore de la passivité du Tahitien qui suit un peu sottement l'Européen. Pourquoi un Tahitien embarque-t-il à cette époque-là sur un navire?
Alors, ce qu'on sait, alors il y en a un qui est Mike, qui va aller en Angleterre. Il est très connu en Angleterre. Il va passer 2 ans à Londres. Mike, on sait très bien parce qu'il l'a dit, il l'a répété. Lui, en fait, c'est un réfugié.
Mike, c'est un prénom. Hein.
Mike, voilà, c'est son prénom. C'est son Mike. En Angleterre, on l'appelle souvent Omai. Mais en fait, son prénom, en fait, ils n'ont que des prénoms qui sont Mike. Lui, en fait, il veut des alliés militaires. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, et que dont Bougainville, par exemple, n'avait pas du tout conscience, c'est qu'il arrive dans des sociétés qui sont des sociétés en guerre. Et la plupart de ces personnages, aussi bien Tupaya que Mai, et peut-être à Autourou en partie, sont en fait des réfugiés politiques et militaires à Tahiti. Ils ne sont pas des Tahitiens d'origine, ils sont des Polynésiens, mais ils viennent d'une île très importante, sacrée, qui est à côté, qui s'appelle Raiatea, et ils ont été chassés par une guerre quelques années auparavant, et donc en fait ils ont très bien compris la puissance de feu des Européens, et donc ils cherchent des alliés et ils cherchent des armes, et Mai se considère en mission en Angleterre pour trouver des alliés militaires.
Donc ça, c'est un argument militaire, mais est-ce que c'est la norme, là, encore une fois? Est-ce que l'on sait pourquoi ces autres vies, ces autres personnages ont été amenés à venir auprès des Européens pour parcourir le monde d'abord et accéder à l'Europe ensuite?
On peut pas faire une généralité parce qu'en fait, on a quelques cas. Et tous ont des situations différentes. Tupaya, visiblement, il est à la fois fasciné intellectuellement par les Anglais, mais aussi pour des raisons là encore politiques internes à Tahiti, il est plutôt en danger et donc il a intérêt à partir. D'autres vont être par exemple emmenés par les Espagnols, puisque pas à tout raconter, mais aussi des Espagnols qui viennent et qui se baladent par là, et vont les emmener pour les convertir et ensuite les utiliser comme auxiliaires pour installer une mission. Donc il y a plusieurs cas de figure, mais à chaque fois, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, on a des gens qui agissent, qui décident et qui essayent d'échanger avec les Européens.
Ce que vous racontez très bien également en miroir, justement, de cette fascination pour certains Tahitiens à l'égard des Européens, c'est une fascination réciproque. Certains Européens sont impressionnés par les Tahitiens, notamment quant à leur connaissance en matière de navigation, leur connaissance en matière scientifique plus largement.
Oui, alors ça va être surtout le cas effectivement au moment de la rencontre avec avec Tupaya. Mais déjà à Otourou, dont on parlait tout à l'heure, Bougainville est très étonné de voir que sur le bateau, il est capable de s'orienter très bien grâce aux étoiles. Il dit mais qui leur a appris? Qui leur a appris la navigation par les étoiles et la connaissance des astres. Donc en fait, progressivement, ils découvrent que cette société qu'ils imaginaient comme une société presque collée à la nature, hors du temps et de l'histoire, en réalité, ils ont des savoirs, ils ont une société organisée, ils ont des compétences, et c'est une découverte qui va, surtout à partir de des deuxième et troisième voyages de James Cook, se transformer en véritable, effectivement, fascination presque pré-ethnographique pour les sociétés polynésiennes.
Comment ces hommes sont-ils perçus par les Européens, accueillis en Europe? Vous décrivez dans le livre, encore une fois, j'allais dire, presque un accueil ambigu entre curiosité stérile, c'est votre expression, hein, Antoine Lilti, et en même temps des conséquences politiques à grande échelle sur une façon d'accélérer la perception de la hiérarchie des races aussi.
Oui, ça c'est le moment peut-être le plus triste du livre, parce que c'est leur arrivée à notamment le cas de d'Aoutourou à Paris et de Maï à Londres. On raconte toujours qu'ils ont été les coqueluches du public parisien, qu'ils ont fasciné le public parisien. Alors au début, j'étais très déçu.
En bête de foire, hein.
Voilà. Alors parfois on dit, soit on dit, c'est formidable, c'est l'universalisme des Lumières, la curiosité pour l'altérité. Et puis d'autres disent, mais c'est déjà les os humains, c'est des bêtes de foire. Bon. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est fascinant. Et en cherchant, au début, je trouvais très peu de choses. Et je me suis aperçu que, comme souvent en histoire, quand on ne trouve pas, c'est là que ça devient intéressant. Parce que ça voulait dire que, en fait, cette curiosité, elle a été très active, très vive pendant quelques semaines. Et puis, au fond, ces Tahitiens ont déçu. Et pourquoi ils ont déçu? Ils ont déçu parce qu'en fait, ils ne correspondaient pas aux attentes justement du public européen, qui voulait justement, d'une part, qui voulait des êtres extraordinaires, totalement proches de la nature. Et donc ils vont décevoir. Deuxièmement, ils vont décevoir pour des raisons qui sont liées au fait que dans ces années 1770, on est dans l'émergence des classifications raciales. Et je pense qu'on n'a pas le temps de développer ça maintenant, mais au fond, ils vont être très vite catégorisés racialement et donc de manière négative. Donc ça, c'est une chose importante. Et puis, troisièmement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce désintérêt très rapide pour les Tahitiens de chair et d'os va être remplacé par des créations de fiction. Des fictions philosophiques, des fictions romanesques, des fictions théâtrales qui vont, au fond, le public va beaucoup plus s'intéresser à des faux Tahitiens que aux véritables Tahitiens qui sont présents en Europe.
J'en reviens un instant, Antoine Lilti, au mythe qui entoure Tahiti. Ce qui est fascinant aussi quand on vous lit, c'est la façon dont à chaque fois ce mythe est réapproprié d'une façon différente selon les époques, parfois d'une manière primitiviste, parfois d'une façon anticoloniale. On va aussi avoir des discours libertaires parce que, vous l'avez dit, c'est un paradis perdu pour la liberté sexuelle et son exercice. Au fond, c'est un mythe qui n'a cessé d'évoluer avec la façon dont on avait de l'appréhender.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est le noyau qui reste, effectivement, cette idée de paradis terrestre, de liberté sexuelle et d'hospitalité. Mais en fait, ce noyau-là, il peut être utilisé de manière très différente. Et même lorsqu'il est, même chez le même auteur, c'est-à-dire que chez Diderot, il y a à la fois la construction utopique d'un contre-modèle social dirigé contre l'Europe de son temps et de ce point ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a aussi chez Diderot, si on relit aujourd'hui le supplément Voyage de Bougainville, et ce que j'essaye de faire, on s'aperçoit qu'on peut en faire une lecture beaucoup plus inquiétante, parce qu'en fait il y a un modèle aussi eugéniste chez Diderot. Il y a au fond une fascination pour un comportement naturaliste qui devient par moment, dans certains détails du texte, profondément inquiétant.
Qu'est-ce que ce travail, au fond, vous a appris sur, sinon on revient au sujet initial de cet échange, comment faire l'histoire des autres? Quelles précautions faut-il prendre? À quoi faut-il veiller lorsqu'on se lance dans un tel travail scientifique?
Alors il faut... peut-être qu'il faut se méfier. Enfin, il faut faire deux choses à la fois, et celle qui est difficile, il faut à la fois... accepter une certaine forme d'empathie avec ces personnages par rapport à mes livres précédents qui étaient peut-être plus plus distant, plus analytique. Là, j'ai accepté.
Là, vous accompagnez des vies.
J'accompagne des vies. Donc, j'ai accepté aussi la narration. J'ai accepté la dimension parfois romanesque de ces vies et donc d'une empathie pour leur trajectoire et leur destin. Et en même temps, de ne jamais céder à la facilité qui serait de remplir les blancs de l'histoire et les blancs de la documentation. C'est pour ça que c'est un livre qui, au fond, j'ai essayé de tenir deux trames. Cette trame du récit et du narratif, et puis une trame de l'inquiétude, d'un savoir qui s'interroge sur ses possibilités. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moments dans le livre où je m'arrête pour savoir ce qu'on peut savoir vraiment à partir des sources. Et je crois que c'est faire ça aujourd'hui, c'est aussi une manière de dire au lecteur quelles sont les possibilités de l'histoire, mais aussi quelles sont les limites du savoir historique.
Et dans le même temps, je rajoute que vous ne les héroïsez pas. Et c'est aussi cela, il faut peut-être faire attention à ça également. Merci beaucoup, Antoine Lilti. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage, fil rouge de cette discussion, L'illusion d'un monde commun, Tahiti et la découverte de l'Europe aux éditions Flammarion. Merci Antoine Hilti et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Roxane Poulin, Bertie Bourdon, Rodi Eken. À la réalisation, c'était François Richer et Dalia ce soir à la technique.